Amen. Merci à toutes et à tous de bien vouloir m'accueillir ici au sein de cette noble assemblée pour essayer de parler ensemble de l'écriture, de continuer. Moi j'arrive un peu au terme d'un parcours, c'est pas tout à fait terminé, il reste encore une journée, une étude. J'arrive ici, je dis au terme, parce qu'il s'est passé des choses depuis le début de la semaine. Je suis profondément désolé d'une chose, c'est que je n'ai pas pu participer à ce qui s'est fait jusque-là. Et j'ai l'impression de venir un peu boiteux. Alors, vous ne m'en voudrez pas si je redis peut-être des choses qui ont été dites, si je n'entends pas des choses qui ont été dites. Et je tiens à votre sagacité, à votre bienveillance, pour pouvoir m'aider, justement, en termes d'échange, tout à l'heure, ou peut-être même pendant ma prise de parole, pour essayer peut-être de remettre à plat certaines choses que je n'aurais peut-être pas l'occasion de dire dans mon exposé. Il m'a été confié l'étude de deux versets très particuliers que vous connaissez sans doute très bien maintenant pour les avoir repris aussi, je pense, pour préparer aussi cette étude. Deux versets dans les épîtres de Paul qui sont assez particuliers. Deux versets qui se ressemblent, deux versets qui font appel à un listing peu habituel qui parle de puissance, qui parle d'autorité, qui parle de dénomination. Et ces versets, nous allons les reprendre évidemment. Puis-je me permettre maintenant, au terme de ce bref introduction, vous redire ce qui m'est arrivé aussi, puisque Jean-Marc tout à l'heure a rappelé que ce qui a fait pour une bonne part le succès de ces rencontres, c'est le partage du pain, il me semble. Ce sont les bons repas préparés. Et de savoir que si aujourd'hui la thématique proposée pour la semaine tourne autour de la laïcité, à travers des études bibliques, je voudrais rappeler des choses sans doute qui ont été dites. Encore une fois, pardonnez-moi si je n'étais pas là les fois précédentes. C'est obligation familiale m'obligeait à rester auprès de mon petit. Alors voilà, je ne peux pas faire autrement. Et vous l'amener, il aurait fait un peu de bruit. Alors voilà. C'est juste pour vous redire que dans le mot laïque, évidemment, vous entendez le mot laos, et vous le savez, c'est ce mot grec qui nous rappelle que le mot laïque vient du mot peuple, tout simplement. Un peuple. Alors un peuple qui, dans la théologie chrétienne, est vite venu dans une consonance de peuple de Dieu, bien évidemment, mais le mot lui-même est un mot d'abord tout à fait sans jeu de mots laïque, et le mot laos appelle simplement donc la collectivité, appelle déjà quelque chose qui est de l'ordre de l'universalité qu'on va retrouver dans les épîtres de Paul, et en particulier dans celle qui m'a été confiée à la lecture d'aujourd'hui. Donc cet appel à la laïcité, au peuple, comme prenant en compte chaque membre pour ce qu'il est, là où il est, avec ses compétences, avec ses qualités, avec ses limites, avec ses forces et avec ses faiblesses. Pour qu'il puisse répondre, je vous en prie. Oui.
Je trouve que vous allez un petit peu trop vite pour mon cerveau.
Pardonnez-moi. Je vais un peu trop vite pour votre cerveau.
Vous annoncez trop vite les mots et alors ça me perturbe.
Je vous perturbe.
Vous pouvez juste un peu plus lentement nous parler. Je pense que ça serait.
Je vais essayer de parler plus lentement. Je vous promets. Très bien. Je vous remercie pour le frein que vous mettez. Je vais le faire. Voilà. Je vais parler beaucoup plus lentement. Pas plus doucement.
Ça nous stresse moins.
Plus lentement pour pas vous stresser. Mais voilà. Je suis du midi de la France. Je suis du bassin méditerranéen. Je suis d'un continent particulier parce que je suis du continent méditerranéen. C'est un continent, la Méditerranée, pour moi. Et je suis d'Afrique du Nord. Alors parfois, j'ai un accent qui va revenir. J'ai des origines pieds-noirs, des origines juives. J'ai appris l'arabe. J'ai vécu en pays du Moyen-Orient. Alors c'est vrai que, pardonnez-moi, mais encore une fois, je serais tenté de parler. Parfois, je serais tellement fatigué avec ma main gauche, à force de parler avec la main, que je changerais le portage de mon micro pour parler avec la main droite. Et de temps en temps, je vous regarderai pour voir si je vous stresse ou pas, pour revenir à... Voilà. Je vais essayer d'articuler... Vous m'entendez mieux quand je suis assis ?
y en a pour une demi-heure.
Je prends mon temps.
Asseyez-vous.
Je m'assois, parce qu'on me demande de m'asseoir. Pardon pour les gens du fond, je ne vous verrai plus. Voilà. Mais je ne resterai pas longtemps ainsi, franchement. Je voulais me permettre de vous dire ceci. C'est que tout à l'heure, encore une fois, par rapport au... Le laïcat, je n'ai aucune prétention de devoir le définir, spécialement pas à partir du maître de Paul. Ce que je puis faire, en tout cas, c'est rappeler, d'après ce que je sais, moi, de Paul, d'après mon point de vue, qui n'est que mon point de vue, d'après la lecture que j'ai pu faire des lettres de Paul, qu'elles soient d'ailleurs de lui ou pas, peu importe, mais en tout cas dans le corpus paulinien, je peux, en tout cas, me rendre compte d'une chose par rapport au peuple de Dieu tel qu'il est noté lorsqu'on parle de Laos, lorsqu'on parle d'un peuple laïque. Encore une fois, que chaque personne est considérée pour ce qu'elle est, encore une fois, avec ce que je disais tout à l'heure, avec ses forces, avec ses faiblesses, et chaque personne est considérée, encore une fois, comme faisant partie prenante d'un ensemble. L'ensemble est important puisqu'il considère le corps de l'Église tel qu'il est notifié dans l'Épître aux Éphésiens, dont on m'a donné la lecture, mais je voudrais vous rappeler que dans la plupart des lettres de l'apôtre, lorsqu'il est question de membres de l'Église, il est question aussi d'individualité, et pas seulement d'un corps dans son ensemble. Le corps dans son ensemble est évidemment éminemment important, mais il est important parce que chaque membre en tant que tel est pris en considération. Mais encore une fois, pour ce qu'il est, autorisez-moi cette petite parenthèse, petite cheat note peut-être, mais c'est le dialogue que j'ai eu tout à l'heure avec Jean-Marc qui me permet d'y penser maintenant. À une occasion bien particulière, il y a déjà des années de ça, j'avais l'occasion de travailler dans des associations au service des plus pauvres. Et je l'ai fait pendant des années. Et une fois, il m'a été confié le soin d'aller voir, excusez-moi je me relève, hein, d'aller voir dans un groupe de personnes en très grande difficulté. Pour la plupart de ces personnes dormaient dans la rue depuis des années. Et on m'avait demandé avec deux autres personnes, nous étions donc trois compères, de rencontrer ce groupe pour essayer de leur expliquer que nous avions besoin de nous retrouver avec eux précisément pour faire des partages bibliques, pour parler de la parole de Dieu, pour échanger avec eux, quelle que soit la personne, avec son niveau d'étude ou pas d'étude, la personne en tant que telle, face ou avec ou dans ou grâce à la parole de Dieu, est une personne qui est prise ensuite dans le propre de sa dignité. Alors, j'étais très très heureux de me retrouver avec deux autres personnes très responsables pour retrouver ces personnes de la rue pour leur expliquer toute la démarche que nous avions prévue d'entamer avec elles, ces personnes-là, pendant quelques années. Le programme était lancé. J'étais content de me retrouver là dans ce groupe. Et lorsque la personne qui était responsable de ce groupe nous a présenté, comme Jean-Marc l'a fait tout à l'heure, beaucoup plus délicatement, cette personne nous a présenté d'abord la première en disant « Voilà, un tel, oh lui, il vient parce que c'est le grand responsable de la diaconie dans le département en question, que je ne citerai pas. » Le grand responsable. Deuxième personne, c'était l'autre, moi j'étais que la troisième. L'autre, oui, l'autre ici, c'est le grand responsable de telle association caritative, très importante dans tout le département. Et moi, j'étais là, au titre de l'Église catholique. Et je représentais la hiérarchie de l'Église catholique pour parler. J'étais honoré de rencontrer ces gens-là à ce titre-là. Et j'attendais évidemment que la personne responsable me qualifie de la sorte. Et la personne, lorsqu'elle est arrivée à moi, disait « Et lui, Bernard, ben lui, Bernard, je ne sais plus pourquoi il vient, je ne sais plus, mais... Oh, mais écoutez, il doit sûrement venir par amitié. » Eh bien, ça m'a remis les idées en place parce que, en fait, j'avais tout bonnement oublié de venir par amitié. J'étais venu avec mes casquettes, avec mes étiquettes. J'étais venu avec ce que l'Écriture ne dit pas de moi. J'étais venu avec quelque chose qui était au-delà de... J'étais venu avec ces fameux versets dont je vais parler maintenant. Avec une fausse autorité, une fausse domination, une fausse puissance. J'avais cru l'espace d'un instant que c'était avec ça que je devais rencontrer les gens. Bon, je ne vais pas faire un faux portrait, mauvais portrait de moi, je veux pas trop quand même. C'est juste pour vous rappeler que j'avais encore une fois oublié de venir par amitié. Cette personne, je pense qu'elle était inspirée, juste pour me rappeler à moi, pas aux autres, à moi, que je devais venir voir les gens pour ce qu'ils étaient, c'est-à-dire en ami. En ami. Alors, le terme lui-même n'est pas forcément fréquent dans les lettres de Paul. Mais ce que je retrouve, moi, de la laïcité, donc encore une fois, c'est mon point de vue, hein, on pourra en débattre, mais mon point de vue de la laïcité dans les épîtres de Paul, et spécialement encore une fois à travers celle des Éphésiens, que je dois reprendre à travers deux versets, j'aime entendre le caractère collectif, le caractère individuel qui souligne le caractère collectif, et ce caractère collectif qui sera appelé Ecclésia, qui sera appelé Église, bien évidemment, par l'apôtre et par les autres, mais n'a pas d'autre sens que celui d'un rassemblement de personnes qui se respectent, qui se considèrent pour ce qu'elles sont. Et je le dis tellement avec conviction et avec force, que j'ai une audace peut-être mal placée, peut-être trop élancée, de devoir vous rappeler, vous dire combien l'apôtre Paul, dans la plupart de ses lettres, et celles qui ne sont pas forcément, encore une fois je le redis, signées de sa main, sont des lettres qui, peut-être en mettant l'épître aux Romains un peu différente, ce sont des lettres qui ne cessent de rappeler l'importance de l'unité de la communauté. L'unité. Et quand il parle d'unité, lorsqu'il défend l'unité, lorsqu'il préconise l'importance de l'unité d'une communauté, qui est à Corinthe, qui est à Colosse, qui est à Éphèse, qui est à Philippe, c'est toujours pour dire vous êtes des membres différents. Mais chacun a sa place. Et chacun là où il est correspond donc à une part de cette réalité dont il dira qu'elle est un corps lorsqu'il sera. Il écrira pour Éphèse, lorsqu'il dira que c'est un temple, lorsqu'il il parlera très profondément à Corinthe, rappel, chapitre 3, versets 16, 17, des versets très forts, où il rappelle justement l'identité de la communauté qui peut s'écrouler s'il ne prend pas en compte son habitation, c'est-à-dire la présence de l'Esprit en elle. C'est l'Esprit qui fait la communauté, c'est l'Esprit qui fait l'Église. C'est l'Esprit qui fait ce corps aussi. Alors voilà. J'aimerais, par rapport aux deux versets qui m'ont été confiés, vous faire une brève présentation, mais vraiment très brève, présentation littéraire de cet épître. Pour ce qui est de son style, l'épître aux Éphésiens, et de sa ressemblance très frappante, très troublante avec l'épître aux Colossiens, il convient de redire ici quels sont les problèmes que suppose cette lettre, mais sans donner forcément réponse à toutes les questions qu'on pourrait se poser. Et pardonnez-moi l'enfance si je ne pourrais pas répondre aux questions que vous allez tout à l'heure me poser. En partie, certaines j'espère. C'est d'abord l'adresse de l'épître qui pose problème. L'adresse elle-même. C'est vrai qu'on aimerait bien avoir dans cette adresse, que je me permets juste de relire, chapitre 1, verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Jésus-Christ, à vous, grâce et paix de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Il insiste. Hein. Seulement, il ne dit pas à qui il s'adresse. Il parle des saints, il parle des fidèles, mais on aurait tellement aimé lire de manière très nette les destinataires. Ce n'est pas le cas. Il est vrai que la plupart des grands manuscrits, les plus grands manuscrits de première main de l'épître aux Éphésiens, n'indiquent pas vraiment que c'est à la communauté des chrétiens d'Éphèse que cette lettre est adressée. Le problème se pose par ces quelques mots, donc, qui manquent, au moins les deux mots simplement d'adresse, les saints à Éphèse, ou les saints de la communauté ou de l'église d'Éphèse, au moins ça. Quelques manuscrits de moindre importance, ou de seconde main, comme on dit, donnent ces mots, évidemment, sur l'identité des correspondants de l'auteur. Et on peut lire, alors, dans certains manuscrits, ce verset corrigé, bien évidemment, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, etc., etc., aux saints à Éphèse. En Éphèso. À Éphèse. On le dit, on l'écrit. En bref, aucun manuscrit antérieur au IVe siècle ne porte dans l'adresse l'indication à Éphèse. Certains commentateurs ont même imaginé que cette lettre était adressée aux chrétiens de Laodicée. Sans doute le savez-vous, mais de Laodicée, sur l'indication d'un certain, Marcion. C'est Marcion qui en parle le premier, dans une polémique qui l'oppose à Tertullien. Donc là, on est vraiment dans les tout premiers siècles de l'Église. Hein. Il affirme que cette lettre était en fait adressé aux chrétiens de Laodicée, mais rien n'est dit sur cette communauté. En fait, on ne sait rien sur elle, sauf peut-être dans le dernier livre du Nouveau Testament, évidemment, et au chapitre 3, versets 15-16, au livre de l'Apocalypse, « Je sais tes œuvres, tu n'es ni froid, ni bouillant, mais parce que tu es tiède. » Là, l'auteur s'adresse à la communauté de Laodicée. Et parce que tu es tiède et non froid ou bouillant, je vais te vomir de ma bouche.
Rappelez-moi la référence, Apocalypse.
Apocalypse 3, verset 15-16. L'explication d'une telle menace est peut-être donnée dans le verset suivant. Parce que tu dis, donc je vais te vomir de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais même pas que tu es misérable. Du coup, en raison de cette tiédeur, il est possible que plus tard, on ait voulu retirer le nom de Laodicée dans l'adresse de l'épître. Peut-être. Et c'est pour cela qu'elle se serait retrouvée sans nom. L'information de ce fameux Marcion dont j'ai parlé n'a pas de fondement véritable aujourd'hui, à moins qu'il ne se soit tout simplement appuyé sur l'indication de la lettre jumelle d'Éphésiens, c'est-à-dire la lettre aux Colossiens, au chapitre 4, verset 16, où il est écrit ceci, je cite, « Lisez à votre tour la lettre qui viendra de Laodicée. » Lisez-la, cette lettre qui viendra de Laodicée. Et nous avons là, avec cette indication de la finale de Colossiens, une attestation assez significative de lettres qui pouvaient, de fait, circuler de communauté en communauté. Hein, vous lirez cette lettre qui nous vient de Laodicée. Ou d'ailleurs, je ne sais pas. Et ça veut dire que cette lettre a été lue à tel endroit, elle sera lue ici, ou là. On est peut-être ici en présence, évidemment, de lettres dites circulaires. Alors, une autre surprise relative à cette lettre aux Éphésiens, on apprend à la lecture de quelques versets en interne à la lettre que l'auteur d'Éphésiens semble n'avoir eu quasiment aucune relation avec la communauté d'Éphèse, avec ses fameux destinataires. Et on le lit notamment au début de la lettre, au verset 15 du premier chapitre et des versets suivants, au chapitre 2, verset 1 et suivant, au chapitre 2, verset 11 et suivant, verset 3 et suivant du chapitre 3, etc. Or, on sait par ailleurs que Paul a passé plus de 2 ans auprès de cette communauté à Éphèse, d'après ce que nous en disent les Actes des Apôtres, au chapitre 19 et 20 du livre des Actes. La source n'est pas la même, certes, mais on nous explique là, dans le livre des Actes, combien Paul s'est attaché à cette communauté d'Éphèse, qu'il y est resté tout de même 2 ans. En 2 ans, ne dites pas qu'il est resté enfermé chez lui, qu'il n'a pas connu les gens. Donc il connaît cette communauté. Il connaît là aussi, pour le coup, ses faiblesses et ses richesses. À la suite de cette remarque, certains commentateurs, certains auteurs, n'ont donc pas hésité à considérer cette épître comme une sorte de lettre circulaire, comme je disais tout à l'heure. Ce qui est fort possible, à moins que ce ne soit Colossiens. Colossiens et sa sœur jumelle. L'absence de précision s'appliquant à une communauté bien déterminée incline à penser à cette hypothèse. Autre remarque qui peut pousser dans ce sens, on repère donnerai quelques chiffres, et je vous promets que je m'arrêterai là pour les correspondances, mais on repère environ un tiers des mots de l'Épître aux Colossiens qui se retrouvent dans Éphésiens. Un tiers des mots. De plus, sur les 115 versets de Éphésiens, 73 ont un parallèle quasiment exact en Colossiens. C'est un gros pourcentage. Bref, tous les points de comparaison entre ces deux épîtres, remarquablement proches l'une de l'autre, amènent tout simplement à se demander laquelle de ces deux épîtres est l'originale et laquelle, par conséquent, est une reprise ou un écho de l'original. Mais on peut aussi bien se demander si les deux n'ont pas tout bonnement fait l'objet d'une rédaction presque simultanée. Vous voyez, je ne fais que poser les questions, je ne réponds pas à ces questions. D'abord, je n'en ai, j'ai pas la prétention de pouvoir le faire, et je me demande si quelqu'un peut vraiment le faire. En conclusion, c'est une lettre qui pose tout de même de sérieux problèmes quant à sa place dans l'ensemble du corpus paulinien ou celle de Colossiens. J'aimerais maintenant vous parler du message de l'Épître, le message central, le message qui va nous amener à nous arrêter à nos deux versets. Le message que porte l'Épître est tellement important qu'il passe bien avant la question de son origine. Et bon nombre de commentateurs dans l'ensemble des églises d'aujourd'hui estiment le message d'Éphésiens aussi fort que celui de l'Épître, la première Épître aux Corinthiens et de Romains, pour vous dire l'importance d'Éphésiens. Un des aspects essentiels de l'Épître aux Éphésiens porte sur la question du mystère. Le mystère. Mais non pas dans le sens de ce qui est caché, non pas un mystère caché, mais dans le sens de ce qui est révélé ou de ce qui est en train de se révéler simplement sous nos yeux. C'est ça le mystère entendu dans l'Épître aux Éphésiens. Dans ce sens, tout ce qui tourne autour de la connaissance dans l'Épître se comprend du point de vue de la révélation. Et c'est évidemment le Christ qui est révélé. Personne d'autre. C'est lui qui est l'objet de la révélation. On voit que tout converge vers le Christ, comme dans l'hymne d'ouverture, où tout est éminemment christique. Tout tourne autour du Christ dans l'hymne d'ouverture d'Éphésiens, qui est un passage lu et relu dans tel ou tel culte, liturgie, ou ce que vous voulez. On relit, on entend cet hymne-là dans la prière des chrétiens depuis toujours. Le thème du mystère pose ici le principe de l'universalité de l'Église. À partir de la connaissance de l'Église particulière, l'Église d'Éphèse, l'Église d'une communauté. Et pour Éphésiens, cette Église est qualifiée, comme je le disais tout à l'heure, de corps du Christ. Notons que même s'il s'agit d'une lettre circulaire, elle arrive tout de même à Éphèse. Et la question du principe de l'universalité fait écho à la difficulté constante de toutes les communautés, le problème de l'unité que j'évoquais aussi pour commencer. Et mis à part la lettre aux Romains, où la question ne se pose pas, encore une fois, je le redis en ces termes, le thème de l'unité revient régulièrement. Et ici, en Éphésiens, il est décliné en termes de révélation du message du Christ pour le bien du corps entier de la communauté. Révélation du corps du Christ, du message du Christ pour le bien du corps entier de l'Église, de la communauté d'Éphèse. La communauté des croyants à Éphèse, ou plus largement de toute l'Église, fonde son unité sur le Christ et pas ailleurs. Chacun, je souligne le terme, chacun est soumis au Christ, soumis, sens fort du terme. Il est mis juste dessous, soumis au Christ. Non pas à tel ou tel porteur de l'Évangile, comme le problème s'est sans doute posé à Corinthe, par exemple. Vous connaissez bien la première épître aux Corinthiens, qui rappelle, certains d'entre vous disent, je suis de Képhas, d'autres je suis d'Apollos, je suis de Pierre. Si on lit avec un certain ton ce verset, on lira juste derrière Paul qui dit, et moi du Christ. Est-ce qu'il dit ça ou est-ce qu'il parle d'une autre branche qui dirait et la branche du Christ ? Ou le dit-il de lui-même ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'il rappelle dans cette épître profondément le sens là aussi de l'unité, développé aussi à Éphèse, mais d'une manière différente, puisque là il dit, écoutez, vous êtes une communauté avec des factions différentes, vous n'arrivez même pas à vous entendre, certes, mais je vous le redis, que ce soit Apollos ou moi-même, nous sommes des serviteurs de la communauté que vous formez. Nous ne sommes pas des super apôtres ou des super intendants, comme il dit d'ailleurs au chapitre 3 ou au chapitre 4. Nous ne sommes pas des super apôtres, nous sommes des serviteurs de la communauté. Le jour où vous, communauté, vous prendrez en compte le fait que vos ministres sont vos serviteurs, alors là, et alors là seulement, l'unité pourra commencer. Et je crois qu'il y a là à entendre un message fort, encore une fois, sur la... Le terme est peut-être mal choisi, mais je veux dire sur la puissance de frappe, si vous voulez, sur la puissance de la communauté, en tant que Laos, en tant que peuple, où là, pour le coup, chacun est pris en considération pour ce qu'il est, mais chacun est pris en considération parce que les ministres, parce que l'apôtre est pris pour ce qu'il est, c'est-à-dire un serviteur, et pas quelqu'un qui est au-dessus. Ça, Paul n'arrête pas de se défendre par rapport à ça. Il n'arrête pas de le dire. Alors il est entendu ou il n'est pas entendu. Ça, l'histoire le laisse entendre de manière parfois différente. Mais toujours est-il qu'il est là pour rappeler qu'il est au service. De la même manière ici, en Éphèse, il se passe la même chose. C'est la question de la communauté dans son unité qui est aussi posée. Ici, l'important est de rappeler que tous sont soumis au Christ. Non pas par esclavage, mais pour indiquer que personne n'est soumis aux puissances du monde. On ne peut pas être soumis aux puissances du monde. C'est ce que rappelle, en tout cas, l'auteur, ou Paul. Seulement au Christ. C'est pourquoi les puissances du monde sont soumises au Christ. C'est l'objet des versets 1, 21 et 6, 12 qu'on confie à notre lecture d'aujourd'hui. L'argumentation de l'universalité de l'Église se comprend pour une part avec le fait que la foi au Christ se répand de plus en plus dans le bassin méditerranéen et qu'elle s'installe de plus en plus dans les sociétés qu'elle traverse, cette foi au Christ. Non sans difficulté, certes, à commencer par les communautés elles-mêmes. C'est pas si évident que ça, évidemment. Il ne suffit pas de dire « unité » pour que ça marche. Il ne suffit pas de dire « unité » dans le peuple de Dieu pour que cette fameuse... égalité laïque puisse se mettre en œuvre. Évidemment non, elle s'exerce, elle se pratique. Elle se pratique pas autrement justement que dans cette volonté de croire que le message du Christ est porteur de l'amour qui vient fonder l'unité. Le message de la bonne nouvelle se répand de plus en plus, oui. La bonne nouvelle apparaît comme complètement liée à l'Église qui la porte et l'Église qui l'annonce. Et de fait, l'Évangile lui-même prend une dimension universelle de plus en plus forte. Le mystère, comme connaissance révélée, inclus ainsi dans l'Épître aux Éphésiens, rend compte d'un Évangile qu'il est désormais quasiment impossible de proclamer sans annoncer dans le même temps l'Église et le Christ qui en est la tête. Arrivé à ce stade, si vous voulez, d'informations que je peux essayer de donner, j'aimerais juste en deux mots, si vous avez en plus le texte sous les yeux, ce sera encore plus facile, c'est vous redonner le plan même de l'Épître. Un plan extrêmement classique, mais selon la manière dont qu'on use pour titrer les parties, donne un sens, une signification en tout cas, de ce message autour du mystère. Il y a deux grandes parties dans l'Épître, entourées d'une ouverture, d'une introduction bien sûr, et puis d'un épilogue. L'ouverture, c'est versets 1 à 14 du chapitre 1, avec une adresse et puis l'hymne de la bénédiction dont j'ai parlé, Et puis la première grande partie, c'est chapitre 1, verset 15, ou chapitre 3, verset 21. Et là, dans cette première partie, je la titre volontiers « À l'Église, par le Christ ». Où là, nous retrouverons notre premier verset, notamment dans l'action de grâce. Juste après, on parlera de la mort à la vie, de l'unité en Christ, de la révélation du mystère, de l'amour du Christ. Et puis on terminera cette première partie par une doxologie. La seconde partie maintenant de l'épître, autant la première, c'était « À l'Église, par le Christ », et maintenant c'est chapitre 4, verset 1, à chapitre 6, verset 20, c'est « Au Christ, par l'Église ». Avec une introduction à l'unité, un texte qui suit sur le corps du Christ et l'unité, on insiste beaucoup sur cette question-là. Et pour comprendre cette unité, l'auteur nous parle ensuite de l'imitation de Dieu, avec, pour mettre en œuvre cette imitation, des relations nouvelles que les uns et les autres doivent avoir entre eux, dans la communauté, et qui sera alors le reflet même des relations qu'on pourra avoir dans la communauté beaucoup plus large, qui est une église corps du Christ. Et enfin, le dernier texte qui est tout à fait particulier, que l'on nomme le combat spirituel, dit-on souvent. Moi je l'appelle le combat pour la vérité, je vais m'en expliquer tout à l'heure. Le combat pour la vérité, le dernier texte de cette épître, juste avant bien sûr l'épilogue au chapitre 6, versets 21 à 24. Donc, l'épître est composée en deux parties d'égale longueur. Le schéma est assez classique, connu dans la plupart des lettres de Paul. Une partie dogmatique, la première partie, et une partie de mise en œuvre, qu'on appelle souvent la partie exhortative. Cette seconde partie qui débute d'ailleurs par la formule d'usage pour l'exhortation. « Je vous exhorte, frère, je vous y exhorte », lui dit l'épître. Je vous y exhorte donc dans le Seigneur, accordez votre vie à l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Appliquez-vous à garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Allez savoir pourquoi on prend toujours ce texte-là pour des mariages. Hein ? Je veux bien, c'est bien, mais la question se pose certainement bien sûr pour les mariages et pour les couples. Mais vous entendez bien sûr que derrière, ici, il y a quelque chose qui est certainement éminemment important pour le couple, mais ici, c'est la communauté elle-même d'abord qui est soulignée. C'est la différence, comme il y a une différence entre l'homme et la femme, j'entends bien. Mais ici, on est ici au terme d'une réflexion où il est question d'accorder sa vie à l'appel que chacun a reçu pour le service des uns et des autres, pour le respect de l'autre, encore une fois, dans ce qu'il représente. Appliquez-vous, je recite, à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Cette seconde partie est une invitation forte de l'auteur à l'adresse de ses correspondants pour que ceux-ci mettent en pratique les affirmations théologiques développées dans la première partie. C'est une invitation à vivre, c'est une invitation à exister. Autant la première partie met en œuvre une sorte de... Vous comprendrez mes origines si je vous parle comme ça, mais met en œuvre une sorte de liturgie de la vie, la première partie, une vraie liturgie de la vie, indépendante de tout rituel. Autant la seconde partie exhorte à vivre les nouvelles relations de vie entre tous. C'est une exigence de vie. Donc une liturgie de la vie d'abord théologiquement marquée, et dans la seconde partie vraiment une exigence de vie comprise dans les relations qu'on peut avoir les uns avec les autres, soumis au Christ et au Christ seul. Cette seconde partie se termine sur un combat spirituel sur lequel, encore une fois, je vais revenir. Les deux versets 1, 21 et 6, 12, qui se trouvent donc l'un dans la première partie et l'autre dans la seconde partie, l'un dans la partie théologique et explicative et l'autre, le deuxième, dans la partie exhortative et de mise en pratique, les deux versets s'accordent, tous les deux, à explorer un vocabulaire semblable, une sorte de listing des puissances qui ne sont pas celles du Christ. Et on retrouve ce vocabulaire donc dans les deux parties de l'Épître. Alors, avec le verset 1, 21, je vais tout de même le relire et l'entendre de cette manière. Je lis ici dans le... Je lis ici le verset 1, 21 de l'Épître aux Éphésiens dans la traduction de la Taube. Bien au-dessus de toute autorité, pouvoir, puissance, souveraineté et de tout autre nom qui puisse être nommé, non seulement dans ce monde, mais encore dans le monde à venir. Ici, il s'agissait de cette puissance même du Christ, où il était question au verset 20, Dieu, quelle immense puissance il a déployée en notre faveur, à nous les croyants, son énergie, sa force toute puissante, il les a mises en œuvre dans le Christ, lorsqu'il l'a ressuscité des morts, et fait asseoir à sa droite dans les cieux, bien au-dessus de toute autorité, puissance, etc. Avec ce verset 21, nous sommes donc au terme de la prière d'ouverture, prière d'illumination, comme le titre si bien la Taube. Et dans les versets qui précèdent, il est clairement dit que c'est Dieu et lui seul qui permet l'accès à la connaissance par la révélation qu'il fait de lui-même à travers son Fils. La révélation que Dieu fait de lui-même à travers son Fils. L'auteur rappelle ainsi que seul Dieu ouvre les cœurs à cette espérance. En dehors de lui, il est impossible de reconnaître le Fils. Le thème connu de celui qui siège à la droite de Dieu, et qui donc a toute son autorité, siéger à la droite de Dieu, ça signifie donc l'autorité de Dieu, comporte double aspect de l'autorité et du Christ, et de la reconnaissance de l'Église. Il y a dans cet ensemble de versets, l'autorité du Christ lui-même et la reconnaissance de la communauté ecclésiale. Le Christ d'abord. L'auteur établit clairement une liste des catégories dans le domaine de la puissance que le Christ domine. L'apôtre met en avant cette liste pour montrer à quel point l'autorité du Christ va au-delà de toutes celles-ci, bien au-delà. Toutes ces puissances étaient comprises par les gens de l'époque et dans la représentation juives notamment, comme des forces angéliques de l'au-delà. Des forces ou des puissances énormes en grandeur, en dimension, en force, bien au-delà de la compétence humaine, bien au-delà des hommes tout simplement. Les présenter ainsi suppose à la fois que le Christ est au-dessus de ces puissances et que celles-ci dépendent de lui, et que le Christ est évidemment au-dessus des hommes. Alors, il nous faudra, dans un instant, peut-être dans un échange, essayer de définir quelles sont ces puissances. Pas forcément si évident que ça. C'est montrer en tout cas que le Christ est à la fois à l'origine et le maître de la création. Le Christ est au-dessus de tout autre nom qui puisse être nommé, dit le verset qui nous intéresse. Le verset ici est fort. Le Christ est au-dessus de tout autre nom qui puisse être nommé. On y retrouve bien sûr la marque de l'hymne aux Philippiens. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom et qui est aussi un écho du prophète Ésaïe, notamment au chapitre 45, verset 23. Je cite le prophète, c'est Dieu qui parle dans l'oracle, « Sur moi-même, j'ai prêté serment. » De ma bouche sort ce qui est juste, une parole irréversible. Devant moi, tout genou fléchira et toute langue prêtera serment. C'est seulement dans le Seigneur, c'est-à-dire seulement dans le nom, c'est le tétragramme qu'il y a derrière, bien sûr. C'est seulement dans le Seigneur, dira-t-elle de moi, que son acte de justice est puissance. Ésaïe 45, versets 23-24. L'unique citation du Premier Testament, donc l'unique citation vétérotestamentaire que nous avons dans ce passage de Éphésiens chapitre 1, verset 21, l'unique citation du Premier Testament explicite est au verset suivant, c'est verset 22. Il a tout mis sous ses pieds. c'est le psaume 8. On applique ici le psaume 8 au Christ lui-même. Du fait de la résurrection, le Christ a tous les pouvoirs. Le Christ accomplit donc, dans son humanité, ce qui était prévu par Dieu pour l'homme. Le Christ accomplit ce qui était prévu pour l'homme. Dans la Genèse, l'homme avait fini par se confondre avec la création en raison de sa désobéissance. Ici, le Christ domine la création et les créatures en raison de son obéissance. Vous avez dans le livre de la Genèse, juste une petite parenthèse, permettez-moi, dans le livre de la Genèse, vous avez dans le texte hébreu, le texte français, souvent, le traduit d'une manière différente. Je dis hélas, parce qu'il y a ici une sorte de poésie qu'il faudrait pouvoir entendre. Dans le texte hébreu, vous avez à un moment donné la description de ce fameux jardin d'Éden qui est planté quelque part en Orient. Vous avez trois sortes d'arbres. Je dis bien trois. Vous avez les arbres beaux à voir et agréables à voir et bons à manger. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Dans ce carré de jardin quelque part. Ces arbres, on ne sait pas exactement où ils sont. Je ne vais pas m'habiller en jardinier pour savoir comment ils ont été plantés. Je vais juste me rappeler qu'il y en a un sur ces trois sortes d'arbres, je sais où il est. Vous savez lequel ?
L'arbre de la connaissance.
L'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Au centre.
Au centre du jardin. Lorsqu'il y a le discours ensuite avec le serpent que je passe, vous savez que le discours défigure le discours même de Dieu. Puisque de tout arbre du jardin, tu pourras manger. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Au terme du discours, de l'échange qu'il y a entre la femme et le serpent, il y a une erreur sur les arbres. Puisqu'on reprend ces arbres. Il y a une erreur sur les arbres. Lorsque le serpent dit « Si, si, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin », et alors à ce moment-là, la femme vit l'arbre au milieu du jardin. Elle vit qu'il était agréable à voir et bon à manger. Et elle prit du fruit et l'en consomma, l'en donna à son mari. L'arbre qui est au milieu du jardin, c'était lequel ? L'arbre de la vie. Vous vous êtes trompé. Ce qui veut dire que dans ces préoccupations de la femme ou de l'homme, du couple en tout cas, ces préoccupations, ils ont mis à l'intérieur de leurs propres préoccupations, au milieu même de leurs préoccupations, ils ont mis l'arbre qu'il ne fallait pas mettre. L'arbre qui était situé, le seul arbre qui était repérable, c'était l'arbre de la vie, l'arbre dont il fallait manger, sans aucun doute. Et le problème, c'est qu'il y a une confusion. À un point tel que lorsque vous connaissez le verset qui dit « Ils prirent du fruit, ils en mangèrent et ils reconnurent qu'ils étaient nus. » Et à ce moment-là, le texte continue et nous explique qu'ils vont se couvrir le corps des feuilles de figuier. Bien, très bien. Et à ce moment-là, Dieu descend dans le jardin et comme par hasard, ne les trouve pas. « Où es-tu ? Où es-tu ? Où es-tu ? » Comme s'ils étaient cachés, comme s'ils étaient confondus dans le végétal dans lequel ils auraient dû pourtant être des humains. Comme s'ils retournaient à une création végétale, comme s'ils refusaient leur propre humanité. C'est ça que je voulais juste vous dire. Cette fameuse désobéissance les amène à déconsidérer leur humanité. C'est ça que je retiens. Ce que fait le Christ, c'est que dans son obéissance, il rehausse la dignité humaine de tout homme et de toute femme. Il remet en selle l'humanité tout entière, lui, dans son obéissance. Je vous ai parlé du Christ, et maintenant je vais vous parler de l'aspect ecclésial. C'était le deuxième aspect. Le verset 22 du chapitre 1 de l'Épître aux Éphésiens parle de la primauté du Christ sur toutes les puissances et ses créatures qui se manifeste en quelque sorte au sein de la communauté des croyants. Et cette communauté, c'est l'Église. Nous avons ici le thème de la tête et du corps, ici, dans Éphésiens. Ne laissons pas le biologique, pour le coup, nous donner le sens de cette métaphore. Il s'agit d'un rapport. Supériorité, force, soumission, ce que je vous disais tout à l'heure, soumission du corps, tel que nous l'avons évoqué. Le texte parle à la fois de corps et de plérôme, de plénitude, de totalité, d'espace complètement rempli. Au sens passif, le plérôme, cette totalité remplie, au sens passif, c'est l'Église qui est remplie par le Christ. Au sens actif, parce qu'il peut s'employer de cette manière-là aussi, le Christ a besoin de l'Église. C'est le sens où c'est l'Église qui est une plénitude qui se donne à la communauté des croyants. Alors venons-en à ces puissances. Les puissances sont soumises au Christ, et le texte est clair sur ce point, mais on peut deviner que ces puissances ne restent pas sans agir. Elles sont la source des conflits entre les chrétiens, des divisions parfois, des querelles. De plus, ces puissances affrontent directement notre humanité, et c'est ce que laisse entendre le verset 12 du chapitre 6. Je cite ce verset, proposé à notre étude, « Ce n'est pas à l'homme que nous sommes affrontés, mais aux autorités, au pouvoir, aux dominations de ce monde de ténèbres, aux esprits du mal qui sont dans les cieux. » De par la puissance de la résurrection du Christ, ces forces ne peuvent plus rien en face de l'homme qui s'appuie sur le Christ. Mais ces forces sont bien présentes. Elles ne sont pas supprimées. Elles sont juste neutralisées. Parce que soumises au Christ. Dans cette perspective, c'est non seulement l'homme qui est concerné par ce salut, mais c'est également l'humanité plus large que l'individu. Et peut-être même encore au-delà, c'est le cosmos tout entier qui est concerné par ce salut. Donc, si vous voulez, il y a trois niveaux, l'homme, l'humanité, le cosmos. On arrive ici, avec cet épître aux Éphésiens, à un niveau que je dirais, que je qualifierais de supérieur. On arrive à cette reconnaissance du salut offert à l'homme, puis à l'humanité, puis au cosmos tout entier. Les puissances sont des forces du mal auxquelles il ne faut pas prêter le flanc. Elles existent, elles sont là, mais il faut se soumettre au Christ, pas à elle. Une phrase forte à retenir dans l'Épître, une phrase qui libère et qui interpelle. Chapitre 2, verset 16. Le Christ, au moyen de la croix, il a tué la haine. Au moyen de la croix, il a tué la haine. Et plus haut, au verset 14 et 15, on lisait « C'est lui qui est notre paix. » De ce qui était divisé, il en a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit le mur de la séparation. Deux points. La haine. L'ensemble de ces formules vous invite à prendre en compte ce qui est détruit, ce qui est maintenu. Pourquoi avoir employé le mot « tuer » pour dire la fin des violences? Pourquoi l'apôtre a-t-il employé ce mot-là? L'emploi d'un mot, d'un même mot, suggère qu'il s'agit d'un passage d'un sens à un autre. On passe de la violence de la haine à la violence de l'amour. C'est un peu pour nous prévenir et nous alerter sur une douceur de l'amour qui n'a pas sa place dans la pensée de l'auteur. On n'est pas dans un amour à l'eau de rose. Amour, oui, mais pas un amour douceâtre. Mais un amour fort, presque violent. Attention à la fausse douceur. Il n'y a sans doute pas d'autre moyen de se libérer de la violence de la haine que par la violence de l'amour. Et cette violence de l'amour, c'est la croix. Il faut noter ici que la non-violence selon le Christ ne peut renoncer à un schéma de victoire. La non-violence du Christ ne peut pas renoncer à ce schéma de victoire. Donc rien d'étonnant si, pour équiper le chrétien, affronter aux autorités, au pouvoir, etc., etc., l'Épître aux Éphésiens recommande une armure, le ceinturon, le glaive. C'est un équipement métaphorique, certes, mais il est instructif que la non-violence ne puisse renoncer à la métaphore guerrière. Le verset 6-12 introduit la fameuse métaphore du combat, la préparation au combat. Certains parlent de combat spirituel, je m'arrêterai avec cette métaphore. On voit au verset 11 « Revêtez l'armure de Dieu pour être en état de tenir face aux manœuvres du diable. » Revêtez cette armure. Un peu plus haut, on avait dans la même épître, au chapitre 4, verset 25 et verset 27, que chacun dise la vérité à son prochain. Que chacun dise la vérité. Car nous sommes membres les uns des autres. Donc vérité et unité vont de pair. Vérité et unité. Je vais relire maintenant ce passage qui nous parle justement de ce combat et me rappeler à quoi correspondent ces ingrédients, ces instruments, ces parties de l'armure. Saisissez donc l'armure de Dieu, demeurez debout, à la taille, la vérité pour ceinturon. Vous voyez qu'on commence par la vérité. À la taille, la vérité pour ceinturon, avec la justice pour cuirasse, et comme chaussure aux pieds, l'élan pour annoncer l'évangile de la paix. Prenez surtout le bouclier de la foi. Il vous permettra d'éteindre tous les projectiles enflammés du malin. Tout à l'heure, je vous ai dit combien il était important, d'après l'apôtre, de dire et de redire la vérité aux autres. Enfin, recevez le casque du salut, et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Permettez que je reprenne maintenant ces instruments-là. Regardez bien. Je vais même carrément les mimer. Vous avez sur la tête le casque du salut. 6, 14 et 6, donc oui, à partir de 14. Vous avez sur la tête le casque du salut. Vous avez la cuirasse de la justice. Notez, tous les termes sont des termes très pauliniens. La cuirasse de la justice. Vous avez le ceinturon de la vérité. Vous avez les chaussures pour donner l'élan pour propager l'évangile de la paix. Vous avez le glaive de la parole de Dieu, métaphore de la parole qu'on retrouve souvent, Épître aux Hébreux, Ézéchiel, Jérémie. Et vous avez, dans l'autre main, le bouclier de la foi, et il nous précise pour nous protéger des projectiles enflammés du malin. Très bien. Ceci étant dit, je terminerai par cette petite boutade, si l'apôtre Paul veut bien que je le fasse. Le malin, s'il est si malin que ça, et s'il correspond évidemment donc à ce qu'on peut dire de lui, à savoir qu'il est le contraire souvent de la vérité, et qu'il défigure donc les propos qui sont donnés, soit au couple, au pied d'un arbre quelque part dans le jardin de la Genèse, ou dans une communauté qui s'affronte parfois en faction en se disant des paroles de contre-vérité, si le malin c'est vraiment cette parole de non-vérité, eh bien, ne vous attendez pas à ce que ce malin, je ne sais pas à quoi il ressemble, j'imagine un petit machin comme ça, vous savez, qui jette des projectiles enflammés sur mon bouclier qui est la foi, au bout d'un moment il va se fatiguer. Vous savez ce qu'il va faire? Il va arrêter de lancer ces projectiles enflammés sur ma foi, pour passer par derrière et me couper le ceinturon de la vérité. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être obligé de lâcher le bouclier, c'est-à-dire la foi, et de lâcher de l'autre main le glaive de la parole de Dieu pour retenir mon pantalon et pour retenir ma cuirasse de la justice, pour retenir un petit peu de ma justice, parce qu'elle était soutenue, rappelez-vous, par le ceinturon de la vérité. Donc je suis juste en train de vous dire, pour terminer, que le plus important par rapport à tout ça, lorsqu'on lit ces fameuses puissances, ces dominations, etc., qui n'ont aucune prise sur le Christ, et qu'il faut que chacun des correspondants d'Éphèse ou d'ailleurs se rappelle que eux-mêmes, en tant que membres individuels ou membres d'une église, d'une communauté, d'une église beaucoup plus large, que chacun peut être libéré de ces puissances-là, simplement s'il comprend que lui-même, il est soumis au Christ. Alors là, il aura engagé pour lui-même la parole de vérité. Ce qui veut dire par là que ce qui compte le plus dans l'uniforme dans l'armure du chrétien, ce qui compte peut-être le plus, c'est la vérité. Et que cette vérité-là, il faut la défendre. Dites la vérité à votre frère, disait l'apôtre dans l'Épître aux Éphésiens. Ainsi, vous pourrez construire l'unité. Donc, la vérité est celle qu'il faut pouvoir défendre avec sa foi, avec le glaive. Parce qu'imaginez encore une fois, mon pauvre petit chrétien, si ça, son ceinturon de la vérité est coupé en deux, sectionné, et qu'il n'a plus le bouclier de la foi, qu'il n'a plus le glaive de la parole de Dieu en main, qu'est-ce qui va lui rester ? Les chaussures pour propager l'évangile de la paix ? Vous savez, s'il n'a plus la foi, s'il n'a plus la parole de Dieu, il ne va pas aller bien loin, le pauvre. Si, il va lui rester encore le casque du salut. Un peu vacillant, mais il aura toujours sur la tête, parce qu'on est toujours sauvé. Voilà, j'en ai terminé. Voilà, non, j'ai malheureusement mangé le temps, effectivement.
On laisse 5 minutes de questions.
Oui. Par exemple, vous êtes donc privé de dessert.
S'il vous plaît.
Oui. Si, on a toute la vie en nous.
Vous avez fait un magnifique plaidoyer pour l'unité de l'Église et la solution au Christ. Quelle relation vous faites entre ce que vous avez dit et le sujet qui nous préoccupe, celui de la laïcité? J'aimerais savoir.
Je n'en fais pas parce qu'au départ, le challenge, je n'ai pas compris celui-ci. Pour moi, c'était une étude de deux versets. Voilà. Voilà. Donc, si je vous ai déçu, je suis désolé.
Non.
Je vous en prie.
Désolée, mais je crois qu'il faut que je le dise. Je suis un peu affolée par tout ce que vous nous avez dit, parce que tout le thème de cette semaine, ça a été de voir un petit peu quels étaient les points positifs entre les uns et les autres, les différents points de vue, etc. Et là, on termine avec le glaive et l'instinct guerrier. Moi, ça m'épouvante.
D'accord.
Où est-ce qu'on va? À mon avis, je ne vois pas ce qu'on fait là si on est là pour repartir dans des guerroyers pour la vérité. Quelle vérité? Leur propre vérité.
Non,
et qu'est-ce qu'on fait des gens qui n'ont pas... Des gens qui sont laïcs, des gens qui sont athées, qui ont des valeurs humaines qui sont importantes aussi, vis-à-vis des musulmans, vis-à-vis de tous ces gens-là. Moi, je suis affolée complètement par tout ce que j'ai entendu. Je suis désolée. Mais...
Je suis désolée de vous avoir affolée, de vous avoir inquiétée. Vraiment, je suis désolée. Parce que je ne voulais pas parler de violence, au contraire.
Ben, si, c'est
non, non, je suis sûr que je ne voulais pas parler de violence, ne me dites pas si. Vous l'avez peut-être entendu, mais je ne voulais pas. Non, je voulais juste vous rappeler que le fondement, c'était le Christ. Et qu'il s'agissait d'amour, puisque je l'ai dit.
Mais l'amour n'est pas la guerre. L'amour n'est pas la guerre. C'est pas la
cuirasse,
l'amour.
Mais
c'est la
compréhension. La cuirasse, c'est la protection. Ça n'est pas la guerre.
Je ne cherche pas à comprendre. Voilà. Enfin, ce sont des terminologies qui sont employées par l'apôtre Paul. Et ce n'est pas ma terminologie. Je voulais juste rappeler l'importance de la justice et de la vérité comprise comme. Oui, moi non. Moi, je vous assure, je ne suis pas du tout sûr. Je n'ai pas de vérité, moi. Pour moi, il n'y a que le Christ qui est vrai.
Oui, mais il y a d'autres personnes.
Oui, voilà, bien sûr. Mais sans doute.
Il y avait une question, là.
Non.
Non.
Alors, pas de question. D'abord, nous remercions Bernard Bidot de cette magnifique étude biblique sur l'Éphésiens. Et si ça n'a pas tout à fait correspondu au sujet de la semaine, je plaide coupable, c'est parce que j'ai pas dû assez m'expliquer, et donc je vous demande de me pardonner à moi. Donc, je vous ai laissé la parole, mais vous étiez occupé. Donc maintenant, nous sommes passés à autre chose. Donc, toutes mes excuses à Bernard Bidot, tous mes remerciements pour cette étude biblique, qui quand même, par le biais, va quand même... C'est pas rien d'envoyer des chrétiens dans la société civile et de ça, on sort pas indemne de ça. Et puis j'ai bien aimé, c'est pas un amour douceâtre et édulcoré qu'on nous demande, c'est vraiment un amour combatif et courageux. Voilà. Donc voici maintenant le moment du dessert et du café. Et puis la semaine n'est pas tout à fait terminée. Il y aura encore demain une étude biblique à midi, bien sûr. Je vous rappelle l'expo Bible en bas et puis le tableau éventuellement. Et puis il y aura le culte pour les familles dimanche. Tu voulais dire quelque chose, Charlotte? Non. Donc merci à tous et à demain pour ceux qui pourront être là. Et encore merci à Bernard.